Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce rendez-vous des élèves qui a été organisé par un groupe de 5 élèves conservateurs et conservatrices territoriales de bibliothèque. Donc Raphaël, Billy, ici présente, et moi-même allons animer ces échanges pendant 45 minutes. Et nous vous proposons aujourd'hui d'échanger sur le rôle des médiathèques dans le partage de l'information sur la transition écologique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet ? On s'est d'abord intéressé à ce sujet parce qu'il nous apparaît que le partage de l'information sur la transition écologique, il est indispensable dans les politiques publiques territoriales. Tout d'abord parce qu'il permet aux citoyens de mieux comprendre les politiques publiques qui sont menées par les collectivités. De plus, le partage de l'information et le fait de donner des outils aux citoyens pour comprendre la transition écologique, il permet de favoriser leur participation à la vie citoyenne et démocratique. Un autre point qui nous a intéressé, c'est également l'augmentation de la diffusion des fake news. C'est un phénomène qu'on voit à l'échelle internationale, dans des pays comme les États-Unis ou l'Argentine, par exemple, mais aussi en France, sur notre territoire. Et la diffusion des fake news entraîne un climato-scepticisme grandissant chez les citoyens. Et donc, il nous apparaît très important de partager largement l'information scientifique sur la transition écologique auprès des citoyens. Et dans ce cadre, les bibliothèques ont un rôle essentiel à jouer et incontournable. En effet, les bibliothèques sont le premier équipement culturel de proximité en France et elles remplissent des missions liées à l'éducation aux médias et à l'information qui sont très importantes et de plus en plus importantes. D'ailleurs, ces missions sont inscrites dans la loi, depuis la loi Robert 2021 sur les bibliothèques. Et donc, pour parler de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui deux intervenantes que nous remercions très vivement d'être venues et de participer à cette table ronde. À nos côtés, ici, Morgane Dessart, qui est directrice de la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, une bibliothèque dans un QPV qui est très engagée sur les enjeux de transition écologique. Et en visioconférence, Raphaël Batz, conservatrice de bibliothèque, et Morgane Dessart également conservatrice de bibliothèque, qui est sociologue et qui a notamment écrit la thèse « De la participation à la mobilisation collective, la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique » et qui est actuellement co-responsable de l'unité régionale de formation à l'information scientifique et technique à Bordeaux. Je laisse la parole à Raphaël.
Merci Zoé pour cette introduction. Donc dans un premier temps, on va parler du rapport des bibliothèques aux informations relatives au changement climatique. Raphaël Batz, j'aurais une question pour vous pour commencer. Comment on peut définir les fake news finalement ? Dans quel cadre elles s'inscrivent ?
Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien.
Oui, oui.
Oui, c'est bon. Merci de m'avoir invité pour discuter de ces questions. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas tendance à parler de fake news ou de fausses informations. En tout cas, quand je parle d'informations scientifiques, c'est pas une approche qui est pertinente dans le cadre de l'information scientifique. Alors pourquoi ? Parce que ça laisserait entendre qu'il y ait de l'information vraie. Et en science, l'information vraie, ça n'existe pas, en fait, ou quasiment pas. C'est une vraie problématique. Nous, on va s'intéresser plutôt à l'information vérifiée. Donc, c'est ni vrai ni faux, c'est vérifié. C'est-à-dire vérifier jusqu'à ce que ça ne marche pas. En général, donc, comment on fait de la science ? On fait des hypothèses, vous le savez, on fait des expériences. Un certain nombre d'expériences nous montrent que l'expérience est réussie, en tout cas qu'elle apporte les éléments qu'on veut. Une expérience ratée, d'ailleurs, est aussi une expérience qui apporte des informations. Et on construit comme ça notre expérimentation jusqu'à avoir trouvé la solution à notre hypothèse, en tout cas une solution qui nous paraît être la réponse en fait la plus explicative, etc. Et que ce soit en sciences sociales ou en sciences exactes, hein, d'ailleurs. La difficulté qu'on a, nous, ce qu'on fait en sciences, on vérifie l'information. Alors, on vérifie comment ? D'abord parce qu'on a des données. Ces données, on les met à disposition. Les expériences peuvent être reproduites. C'est ce qu'on appelle la reproducibilité de la science. Quand on donne des articles, nos articles, avant d'être publiés, il y a une revue par les pairs, on appelle ça, et en général en double aveugle, c'est-à-dire que les gens qui lisent mes articles avant de les accepter, ils ne savent pas qui je suis, ce n'est pas mes potes, voilà. Et donc, ils valident l'information. Donc, on a tout un tas de jeux et d'actions de validation et de vérification de l'information. Donc, nous, on s'intéresse pas tellement, enfin, justement, parce qu'on ne veut pas diffuser des informations fausses, on va vérifier l'information. Mais l'information qui est publiée, voilà, elle n'est pas vraie pour autant. D'accord ? Elle n'est pas vraie parce que on ne parle pas de vrai en science. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Arte en ce moment, il y a une série qui s'appelle Le Code du Tueur. C'est un truc sur la découverte de l'ADN et l'utilisation de l'ADN en criminologie. Je vous encourage à aller voir ça parce qu'en fait, il y a plein de réflexions sur la vérité dans la science. Et à un moment donné, ils disent « mais c'est une preuve puisque c'est scientifique ». Voilà. Et il y a quelqu'un qui dit « oui, c'est une preuve parce que c'est scientifique, mais néanmoins, ça ne s'appelle pas une vérité ». Voilà.
D'accord.
Je suis désolée, peut-être je pourrais développer plus, mais c'est peut-être juste pour commencer.
Et du coup, en tant que bibliothécaire, si les fake news sont le mauvais cadre en fait, pour penser ça, comment on sélectionne finalement les collections qu'on va mettre dans nos établissements ? Morgane ?
Pardon.
tu peux y aller, Raphaël, si tu veux compléter.
Oui. Non, mais juste pour dire que de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a de l'information vérifiée qui existe, des articles qui sont publiés, il y a des données, et que du coup, on a des éléments qui nous permettent de définir que ces informations-là sont. Elles s'approchent le plus d'une vérité. Après, je voudrais juste préciser quelque chose. Même, par exemple, le fait que la Terre soit ronde, etc., etc., ce sont des faits, maintenant. Et surtout, nous, on appelle ça des savoirs stabilisés. D'accord ? C'est juste pour vous donner un peu idée de comment on parle dans notre jargon. Voilà. Morgane, je te laisse la place. Je suis désolée, je ne vois pas la table, donc je ne vois pas. Bon, voilà.
on le sait, moi, je te regarde, en fait, Raphaël.
D'accord.
C'est bon,
ouais,
je te vois.
On te regarde.
Ouais. D'abord, merci pour cette invitation. Et effectivement, c'est un sujet qui est compliqué. Vous avez tout de suite positionné cette question de l'écologie sous l'angle, en fait, d'un objet très politique, en fait. Et cette question des fake news, on est moins sur la question de la documentation que la question de la manière dont les informations circulent, dont les informations peuvent être simplifiées, parfois à l'extrême, et dont les informations atteignent le public. Et donc la manière dont les choses vont devenir concrètes en fait en bibliothèque, par rapport à ce que disait Raphaël, sur laquelle moi je souscris complètement en fait aux éléments qu'elle apporte. Et en fait, c'est la question de la gestion d'un fonds documentaire scientifique en bibliothèque. C'est un objet qui est compliqué. Et donc à la bibliothèque d'Hérouville, juste pour vous donner une petite, parce que moi je vais parler vraiment concrètement de la manière dont on travaille. C'est un établissement qui est intégré dans un réseau. C'est une bibliothèque de 1600 m². C'est plus ou moins la deuxième bibliothèque du Calvados, en concurrence avec deux autres bibliothèques. Donc on est quand même sur un gros équipement, mais pas très très gros. Elle fait que 1600 m², donc on n'est pas sur un très gros équipement. Mais on a lancé un projet culturel et scientifique il y a maintenant 4 ans, dans lequel on avait un axe autour de la question de la bibliothèque verte, en s'inspirant du travail de nos collègues de la Canopée, qui ont été vraiment les précurseurs en France sur cette question. Et on a notamment monté un fonds autour de l'écologie et puis des actions. Et donc, pour répondre à ta question, la première chose qu'on a travaillée quand on s'est dit qu'on allait travailler sur cette question-là avec les collègues, c'est vraiment effectivement la question de la politique documentaire. Comment est-ce qu'on allait construire notre politique documentaire et comment est-ce qu'on allait faire attention? Puisque, du coup, Raphaël, elle a parlé de la manière dont les informations sont vérifiées d'un point de vue scientifique. Comment est-ce que le travail est fait? En fait, derrière, en fait, il y a toute la question, évidemment, ensuite, de l'éditorialisation et de la vulgarisation. Et comment est-ce que cette vulgarisation, elle se fait? Et donc, on a eu tout un travail de politique documentaire qui est assez classique, d'analyse de l'ensemble des éditeurs qui proposent ce genre de choses. Et on a mis en place des lignes rouges. Notamment, une des lignes rouges a quand même été la question des climato-sceptiques, où on s'est dit, bon, voilà, c'est moi qui ai tranché. Hein. Je dis, ouais, non, c'est non. Mais elle, c'est une question qui se pose, en fait. Et quand on a préparé le travail avec Raphaël, elle a dit, ça se pose et on peut aussi réfléchir autrement, en fait, cette question de la ligne rouge. Mais après, en tant que directeur d'établissement, il faut en poser. Il faut en discuter aussi avec les élus, si les élus sont dans cette approche-là. Et voilà, comment est-ce que nous, on a travaillé sur cette question. Il faut avoir en tête que c'est un objet qui évolue constamment et donc sur lequel voilà, on s'interroge régulièrement. Et donc, l'année prochaine, on va revoir cette fiche domaine et on va sûrement faire évoluer cette question.
Merci.
Et au-delà de la sélection des documents présents en bibliothèque, il y a aussi donc le fait de le rendre accessible au public. Et comment est-ce qu'on fait pour, en bibliothèque, dans une bibliothèque comme Aéroville, où je pense que Raphaël, tu auras aussi des témoignages, enfin un témoignage à faire sur ce sujet. On partage au public largement, parce que c'est quand même des informations qui sont assez techniques. Et donc, comment est-ce qu'on le rend accessible, on le rend visible dans une bibliothèque ?
De manière assez classique, ou pas d'ailleurs, ce qu'on fait à la bibliothèque d'Hérouville, c'est qu'on fait en sorte d'avoir une présence des chercheurs assez importante. On a mis en place un système très simple, hein, de rendez-vous réguliers sur cette question, qu'on a appelé Ramène ta science. Et l'objectif, en fait, c'est d'être vraiment en veille, en fait, sur le territoire, sur les chercheurs du territoire. On a aussi cette question aussi du local. Du coup, Hérouville, quand en fait on est au niveau du littoral, on est en proximité de la mer, donc on a toute la question du littoral, toute la question de la montée des eaux. On a aussi un gros travail qui a été fait en fait au niveau de la région Normandie autour d'un GIEC normand. Qui a permis en fait une analyse vraiment très très fine de l'ensemble des conséquences dans les années à venir, si maintenant on n'arrive pas à changer nos différentes trajectoires d'évolution. Bon. Et donc c'est la présence en fait de ces différents chercheurs qui ont participé au GIEC, mais aussi des chercheurs plus largement. En fait, on se concentre quand même essentiellement sur la question des sciences de la vie, sur la question des sciences de la terre, parce qu'on a beaucoup de laboratoires sur notre territoire dessus. Pour vous donner une idée, on a fait une douzaine de rendez-vous depuis 3 ans qui ont réuni environ 150 personnes. Qu'on n'est pas, c'est pas des grandes messes, hein, c'est pas des grandes, mais ça crée une récurrence en fait. Et on a un dispositif dans l'établissement qui permet en fait à ce que chaque personne qui arrive à la bibliothèque, quand il y a une conférence ou une rencontre, en fait, elle est en proximité de cette rencontre. Hein, c'est pas dans une salle fermée, planquée. Et donc, en fait, on a aussi une proximité, enfin, comment dire, les gens sont percutés, en fait, par cette présence. Et le chercheur, en fait, à chaque fois, ils sont enchantés de venir. Enfin, vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, on les paye, je pense qu'on en a eu pour 150 euros hein, depuis le début de cette action. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on leur propose une rétribution, ils refusent en expliquant que ça fait partie de leur mission. Donc on paye évidemment leur défraiement s'ils viennent de loin, mais comme on est surtout sur du local, voilà. Donc, et donc en fait, en général, ils viennent en début d'après-midi, donc ils sont présents et donc aussi ils sont dans une réflexion, dans un discours aussi avec les gens, dans une proximité. Et ça change aussi beaucoup de choses.
Raphaël, peut-être tu veux compléter sur...
Oui. Alors, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir. Je vais commencer par rebondir sur est-ce que les chercheurs sont accessibles, chercheurs, chercheuses, évidemment, pour écoute chère. Alors, non, effectivement, je confirme, ça fait partie des missions des chercheurs et chercheuses de diffuser. Tout le monde ne souhaite pas le faire, ce n'est pas une obligation, c'est une mission en général, mais c'est une mission qui est encore plus... forte depuis la dernière loi cadre de la recherche qui date de 2020, dans lesquelles il y a une grande partie autour de la médiation scientifique, des sciences participatives, etc. Et il y a un nouveau label dans les universités qui s'appelle Science avec et pour la société, SAPS. Et vous pouvez tout à fait contacter les labels SAPS de vos universités de proximité pour être mis en contact avec des chercheurs. Ils font plein d'actions, etc. Donc, il y a vraiment une dimension assez forte de ça. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que comment est-ce qu'on donne accès à la science ? Vous savez qu'il y a toute une histoire hein, de ce qu'on va appeler aujourd'hui la médiation scientifique comme un espèce de grand éventail. Ça a commencé par plutôt des actions de vulgarisation scientifique qui existent toujours, hein, qui vont relever plutôt d'une transmission de savoir stabilisé, justement, dans lesquelles la personne en face est assez passive. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais c'est ce qui se passe. On a eu ensuite le développement de la culture scientifique et technique. Vous connaissez les CCSTI, etc., dans lesquels on est plus sur une action. On va inviter les enfants, notamment, mais les adultes aussi, à refaire des expériences qui sont consolidées, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de le développement de la médiation scientifique, alors, qui est liée certainement au contexte, évidemment, de production, de développement d'Internet, mais aussi au contexte de transition en général, et notamment climatique. Et donc, on voit émerger différents axes, notamment un axe où il ne s'agit pas d'être simplement actif, mais il faut participer, c'est-à-dire on ne va pas refaire des expériences, mais on va participer à l'expérience et la voir en train de se faire avec tout ce que je vous ai dit avant, d'expérimentation, de tests, etc. Et puis aussi une part hyper importante reconnue à l'émotion. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées et qui montrent que vous pouvez toujours, vous pouvez avoir la plus grande des rationalités face à quelqu'un qui doute sur, par exemple, le changement climatique, ça ne le convaincra pas. Voilà. Notamment parce que ça rentre souvent en conflit avec des croyances, hein, et les croyances, ça relève de l'intime, ça relève de la personne, de l'émotion, et ça ne fonctionnera pas. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les gens vont être acteurs à leur tour, c'est-à-dire qu'ils vont voir comment fonctionne la science, essayer de la comprendre en la faisant, prendre part réellement, et puis aborder aussi les choses du côté de leur émotion, du côté de comment eux, est-ce qu'ils vivent cette information-là, comment ils la vivent, alors dans ce cas-là, on voit que l'information est beaucoup plus reçue. Il s'agit vraiment d'une réception au double sens, hein, c'est-à-dire recevoir l'information, la voir et la recevoir au sens de comprendre. Voilà. Et c'est moi ce que j'appelle ça, cette nouvelle dimension de la médiation scientifique. J'ai appelé ça la poétisation des savoirs. Et je ne sais pas si Raphaël, Zoé, vous vouliez que je parle des colloques, des codocs à ce moment-là.
Oui, ouais. Je pense que là, c'est une bonne illustration.
Et pour vous donner un peu idée, nous, c'est ce qu'on essaye d'expérimenter. Donc, c'est plutôt en sciences sociales, sciences de l'information, et je fais des expérimentations. Et mon expérimentation, elle consiste à dire, voilà, il y a des données scientifiques. Alors, vous savez, chez moi, je suis de Gironde. Chez moi, on a eu des gros soucis de forêts. Vous savez peut-être, voilà, les forêts qui ont brûlé. Il y a peut-être des gens du 33 dans la salle. Bon, bref. Et bon, bref. On a eu des gros problèmes avec nos forêts, on y est aussi très attaché. On a aussi toute une industrie de la forêt, donc le papier, on a les forestiers, etc. Donc ça bouge beaucoup de choses à la fois d'un point de vue climatique, écologique, social, politique, économique, etc. Et donc on a des données sur les arbres, c'est un peu la manière dont les arbres nous parlent, si vous voulez. On a des données sur est-ce qu'ils ont chaud, est-ce qu'ils ont assez d'eau, etc. etc. Et est-ce qu'ils grandissent bien, est-ce que leurs feuilles arrivent tôt ou pas. Et de ces données, les chercheurs créent ce que moi j'appelle un récit scientifique, c'est-à-dire qu'ils nous racontent une histoire scientifique à partir de laquelle ils essayent d'interroger le changement climatique, etc. Et nous, on s'est dit, bah tiens, si on donnait cette histoire aux gens, à vous et moi par exemple, en leur proposant d'écrire leur propre récit à partir de ça, c'est-à-dire de donner la parole aux arbres, mais de leur regard à eux, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, on a organisé des ateliers d'écriture slam. Et on a invité les gens à venir slammer des données scientifiques. Donc, on leur a donné des données scientifiques. Quand je dis des données, ça veut dire des fichiers Excel, ça veut dire des scans de branches d'arbres, ça veut dire des taux d'embolie, ça veut dire des choses comme ça, des graphiques, des enregistrements d'oiseaux, parce qu'on étudie les oiseaux quand on étudie les arbres aussi, etc. etc. Tout ça rangé par dossier. Chaque personne choisissait un dossier. Donc, le débourrement et la sénescence des arbres, la fructification des chênes, les prédateurs des prédateurs des chênes, ou alors le stress hydrique. Vous voyez, des sujets quand même qui ne sont pas de notre quotidien. Et on a proposé ça avec une association qui s'appelle Street Deaf Records et on a organisé des ateliers de slam auxquels on a participé nous aussi. Et à notre grande surprise, eh ben, sachez qu'on peut slammer la science et on peut tous le faire. Tout le monde l'a fait, c'est-à-dire qu'on a fait avec des gens de 11 ans à 83 ans. 83 ans, Suzanne en EHPAD, 11 ans des enfants de collège en 6e. En 6e ou en classe Ulysse, dans le spectre de l'autisme. Et donc, toutes ces personnes ont slamé des textes à partir des données scientifiques. Et surtout, bah, à partir de là, ils ont raconté leur rapport, finalement, à ces enjeux scientifiques qui sont des enjeux intimes ou personnels pour eux. Et donc, pour nous, ça, c'est un moyen aussi de donner accès à la science et surtout de faire en sorte qu'on se l'approprie pour pouvoir s'adapter, parce qu'au fond, l'enjeu, hein, Morgane l'a dit, hein, c'est une question politique, hein. L'enjeu, c'est quand même comment on vit après, sur les territoires. Et donc, voilà un peu la solution que nous, on a trouvée dans notre projet de recherche qui s'appelle Ecodoc. Voilà.
Merci, c'est vraiment un exemple très inspirant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose,
Morgane ? J'aimerais bien ajouter quelque chose sur cette question du participatif. Je sais qu'il y a pas mal d'élèves conservateurs qui sont dans la salle. À la Bibli, on a travaillé aussi sur tout un axe dans ce cadre de ce projet scientifique, dans cet axe 3, autour de la bibliothèque verte. On a travaillé sur tout un axe aussi face à ces situations, et notamment face à ces fake news qui inondent les réseaux, on a un sentiment aussi d'incapacité. Raphaël parlait de stress, d'émotion. Mais si on est dans une émotion qui est trop intense, trop stressante, elle inhibe en fait complètement. Et l'un de nos axes de travail, c'est vraiment de redonner à tout à chacun une capacité d'agir. Comment est-ce qu'on fait quoi ? Et effectivement, on a travaillé sur toute cette question. Alors, pas de la poétisation, mais alors, franchement, c'est la prochaine étape. C'est formidable comme idée, mais de la question de la participation. Et donc, on a travaillé notamment avec, dans le cadre des dispositifs du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui travaille énormément sur cette question de la participation, de la science participative. Donc, on a notamment participé, on n'est pas tout à fait sur le changement climatique, on est vraiment sur la médiation scientifique, mais on a travaillé sur la question du blob. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette expérience. Et donc, on a mis en place l'expérience, on l'a faite avec les usagers pendant 3 semaines. On a découpé nos blobs, on leur a donné à manger. Et c'est pareil, c'est un rendez-vous qui a eu un succès juste incroyable, en fait, en termes de présence. Et là, plus récemment, cette fois vraiment sur la question de la découverte de la biodiversité, on a travaillé avec Montpellier. Dans le cadre, en fait, on a un institut sur le territoire qui est en charge de la question de la médiation culturelle, scientifique et technique, qui nous a proposé d'intégrer du coup le programme de l'Université de Montpellier qui s'appelle Litternature et qui a pour objectif en fait de repérer dans les différents livres jeunesse, donc là c'est vraiment à destination des enfants, toute la biodiversité qui peut exister. Donc pour ça, en fait, ils forment les bibliothécaires qui vont faire cette animation. Et ensuite, nous, en fait, en lien avec les enfants, on pose déjà les premiers jalons de qu'est-ce que c'est que la biodiversité, comment est-ce que ça s'organise, etc. Et ensuite, on travaille avec les enfants et ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'appropriation de ce qui se passe autour de nous, d'appropriation de ce qui existe aussi dans leur imaginaire. Du côté des scientifiques, c'est aussi une manière aussi, à la fin, il y a un petit questionnaire pour les enfants, et donc c'est aussi une manière aussi de réunir de la donnée aussi sur le rapport des enfants avec le monde qui les entoure. Donc je voulais juste donner cette expérience-là. Cette question de donner à chacun sa capacité d'agir, c'est peut-être l'un des enjeux les plus compliqués à traiter, mais qui pour moi est absolument fondamental et qui se traite aussi bien dans la politique documentaire que dans notre politique de médiation, que dans la manière dans notre politique d'accessibilité, etc. etc.
Ouais, je veux bien ajouter quelque chose à ça, c'est que du coup, parce que je suis à 200% d'accord avec Morgane, on fait une bonne équipe, je crois, ça impose de se poser la question des personnes qui vont être plus ou moins déjà sensibilisées à ces questions-là. C'est-à-dire que, quelles que soient les actions qu'on mène, l'enjeu, ça va être de ne pas avoir que les personnes qui sont déjà intéressées par le sujet. Par exemple, dans les sciences participatives, c'est un de mes sujets de recherche, on s'aperçoit qu'une bonne partie des participants ont un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale. Et une bonne partie des gens qui viennent faire des sciences participatives sur les arbres, par exemple, c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'arbre, etc., ou qui ont un intérêt. Et toute la question, je pense, et je ne vous dis pas que j'ai des réponses, même si moi j'en ai quelques-unes, mais... Tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut toucher les personnes qui sont les moins sensibilisées, ce que moi j'appelle les plus vulnérables face à ces questions-là, notamment parce qu'on est dans des dimensions d'émancipation, d'augmentation des capacités à agir, voire, soyons clairs, d'empowerment, c'est-à-dire de reprendre un peu du pouvoir. Et donc, y a un gros enjeu. Alors, je vous donne un exemple, mais un jour, en faisant travailler une bibliothèque sur la médiation scientifique, la médiation autour de l'écologie, ils proposaient une activité qui pouvait se poursuivre dans les jardins et qui, en fait, concernait beaucoup des gens qui ont des jardins. Mais les gens qui ont des jardins, déjà, d'abord, ils ont de l'argent, voilà. Et ensuite, ils ont déjà un environnement, nature, etc. Travailler avec des gens qui n'ont même pas un balcon, ça, c'est autre chose. Comment on travaille la question de la biodiversité avec des gens qui n'ont même pas un balcon ? D'accord ? Et là, on pense un peu les choses différemment. Et donc, moi, je vous encourage à, pour toutes ces actions qui sont menées, toujours de se dire qui est la personne qui ne viendra pas ? qui est la personne qui n'aura aucun accès à cette action. Et cette personne-là, comment je peux faire pour qu'elle gagne quelque chose? Comment je peux faire pour la toucher? Et si vous dites, ah ben ça ne marche pas, ben, pour moi c'est un échec, hein. Clairement, quoi. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus.
Merci. Je vais poser une question un peu pratique par rapport aux équipes en interne. En tant que directeur de bibliothèque, conservateur de bibliothèque, quels leviers managériaux existent pour mobiliser les équipes sur ce sujet de la transition écologique? Morgane, peut-être, si tu veux répondre.
Il y en a plusieurs. C'est le classique, évidemment, un travail avec les élus, s'assurer que travailler avec eux, évidemment, s'assurer que tout va bien sur cette question. Et ensuite, au niveau des équipes, pour moi, la première question à faire, c'est d'abord de l'inscrire dans le projet d'établissement, quel que soit le type de projet que vous mettez en place, que ce soit une priorité. Si c'est pas une priorité, ce sera soit porté par le militant hyper investi, soit complètement dilué, soit concentré essentiellement sur le fait que quand même on a mis en place des poubelles de tri dans la bibliothèque, ce qui est quand même vraiment un grand travail et une belle avancée. Et donc il faut absolument que ce soit porté au niveau du projet scientifique, que ce soit bien, que ce soit co-construit avec les collègues. Enfin, c'est assez classique, hein, ce que je dis. Après, il y a d'autres outils, notamment le fait que la question de la transition écologique soit maintenant inscrite au référentiel métier. C'est quand même assez incroyable parce que c'est hyper libérateur. Puisque pendant longtemps, enfin voilà, nous quand on l'a mis en place, c'était pas encore le cas. Donc il y a quand même un objet politique derrière. La notion d'écologie, elle est portée par certains partis. C'est même inscrit dans leur nom. Donc je sais qu'il y a pas mal de collègues, hein, qui peuvent être embêtés sur cette question. Le référentiel métier, ça permet de rassurer et ça permet aussi d'orienter. De dire, au niveau technique, on va nous attendre sur ces questions et en fait, il n'y a pas de sujet. De toute manière, il faut y arriver. Donc ça, c'est un vrai outil managérial. Ça permet aussi de rassurer tout le monde et de mettre un petit peu tout le monde au même niveau en disant, en fait, là, ça, c'est le socle sur lequel on doit tous... C'est le socle commun. Voilà. Et évidemment, ensuite, c'est la question de la formation, c'est la question de l'information et c'est la question de la co-construction des différents projets là-dedans. Sur Hérouville, on a testé d'abord la mise en place d'un référent sur cette question qui était là pour travailler de manière transversale avec tous les services, qui essayait. Et on avait évidemment pressenti une collègue qui est hyper engagée dans cette question. Et elle a permis de faire avancer beaucoup, beaucoup de choses. Mais on est arrivé au bout de 2-3 ans à un mur, en fait. Ce qui était facile à faire était fait. Facile à faire, on est d'accord. Hein. Mais ce qu'on pouvait faire, en fait, était fait à ce niveau-là. Mais il n'y avait plus tellement de leviers. Et en fait, on a transformé ce référent. Et maintenant, en fait, la mission écologie, elle est portée au niveau de la direction. C'est moi. Avec l'idée que, en fait, il faut absolument que ce soit porté complètement par le directeur de façon à imposer aussi certaines orientations et certains objectifs. Voilà. On ne peut pas tout faire en bibliothèque, on peut tout faire, hein, nos collections ont tout. Donc on pourrait tout faire, sauf que nos moyens, aussi bien RH que financiers, ne le permettent pas. Donc il faut réussir à faire des choix. Et donc si c'est porté par la direction, en fait, ce choix-là, il est très clair. Et donc c'est plus facile de dire, tant pis, on n'ira pas sur l'accueil de tel artiste ou de tel machin, et on va prioriser ceci ou cela. C'est pas simple.
Raphaël, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais ajouter peut-être deux aspects qui pour moi sont importants sur cette question de l'accompagnement des équipes, ou plutôt dans son environnement. C'est la question de l'évaluation et la question du plaidoyer et de l'advocacy. Sur la question de l'évaluation, un des points qui me semble important, c'est de se dire qu'on peut évaluer quand même notre action. Alors tout à l'heure, Morgane disait en rigolant, oui, il y a le fait de mettre des poubelles papier, et puis on peut évidemment avoir toute une liste d'actions qui sont menées. Et la question, c'est à quoi elles répondent, ces actions? Est-ce que c'est des actions qui répondent à des enjeux écologiques directement, ou est-ce que c'est des actions de transition? Quel type de transition? Est-ce que c'est des choses qui répondent à des enjeux de durabilité? c'est pas exactement la même chose, etc., etc. Et puis, de quelle évaluation on parle ? Alors, en fait, nous, avec une de mes collègues qui s'appelle Mathilde Garnier, on a un peu réfléchi à ça il y a quelques temps, et on s'est dit qu'il y avait trois niveaux d'évaluation qui étaient importants et sur lesquels, pour les construire, on peut s'appuyer notamment sur l'agenda 2030 de l'ONU, parce que ça donne un cadre quand même qui permet de réfléchir à notre engagement envers la durabilité. Voilà. Et du coup, il nous semble qu'il est important de voir si on fait des actions qui correspondent à ces différents axes, hein, l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 3, etc. D'autant plus important ça que tout à l'heure, tu disais qu'il y a certains, dans certaines villes, moi je l'ai vu avec des collègues qui ne pouvaient pas afficher leur projet comme un projet écologique parce que sinon on leur disait que la mairie n'étant pas écolo, ça passait pas quoi. Donc ils avaient appelé ça transition citoyenne, je sais plus quoi. Et ce qui est important en fait, c'est de trouver un langage commun. Et l'agenda 2030, c'est un langage commun. C'est un langage commun au niveau territorial, hein, puisque ça concerne les gouvernements locaux, que ce soit le département, la région, les villes. Il y en a plein qui s'appuient sur cet agenda pour construire des feuilles de route. Donc déjà s'appuyer là-dessus et pouvoir dire regardez. On agit sur ces aspects-là. La bibliothèque est importante sur ces aspects-là et puis se rendre compte, nous, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Parce que, par exemple, je suis contente que tu parles du littoral parce que très souvent, moi, quand je fais des espèces d'évaluations comme ça avec des bibliothèques en disant « Alors, on fait quoi sur tous les objectifs ?» Ben, y a un objectif où personne ne fait rien, c'est le 15, hein, celui sur la faune et la flore aquatique. Alors qu'en France, on a quand même plein de rivières, des lacs, des marécages, des fleuves, des océans, des mers, etc. L'autre chose, c'est que la deuxième évaluation, c'est évidemment celle qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire combien il y avait de monde, combien ça a touché les personnes, etc., en s'intéressant un peu à ce que ça change, c'est-à-dire en essayant de voir à quelques mois après si ça a changé quelque chose. Et la dernière évaluation, qui pour moi est la plus importante, c'est, je m'appuie là-dessus sur un outil qui s'appelle l'audit d'inclusion, qui a été fait par les bibliothèques du Canada, et c'est un audit qui permet de dire est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a formé nos équipes ? Est-ce qu'on avait mis un budget ? Est-ce qu'on a, c'est un peu ce que disait Morgane tout à l'heure, on a mis un référent, d'accord, mais finalement, est-ce qu'on l'a mis à un niveau stratégique ? Est-ce que ce qu'on a fait nous permet d'avoir vraiment des actions ? Et quand on se pose la question comme ça, pas seulement de ce qu'on a fait, pas seulement de l'impact de ce qu'on a fait, mais aussi de est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait ? C'est ce que j'appelle, moi, un audit d'intention. Alors, on commence à voir où est-ce qu'il faut aller et sur quel point il faut qu'on aille discuter avec les élus. Et c'est là où je passe au plaidoyer, qui est qu'aujourd'hui, si sur votre territoire, les questions de transition écologique sont abordées sans que la bibliothèque soit à la table de discussion, bah, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne considère pas que l'information est une clé pour pouvoir s'adapter sur ces territoires. Or, vous et moi, on en est persuadés. Donc, toute la question, c'est comment les persuader, et l'évaluation, ça sert à ça.
Justement, Morgane, peut-être à Hérouville, comment vous faites pour faire profiter de votre expertise et du contenu qui sont présents dans les bibliothèques le reste de la collectivité ?
Ah oui, alors ça, c'est la question piège.
Quand je parle du reste de la collectivité, je parle des autres services, des autres agents, vraiment en dehors des bibliothèques.
Ça, c'est la question piège. En fait, pour l'instant, assez peu. Pour l'instant, assez peu. Je pense qu'on n'en est pas justement à l'étape dont parle Raphaël. Dans notre collectivité, il y a un vrai travail qui est lancé au niveau de l'ensemble des élus, aussi bien au niveau du... Donc moi, je suis en communauté urbaine, hein, donc aussi bien dans une communauté urbaine et avec beaucoup de mutualisation avec la ville-centre. Donc la direction culture, par exemple, est à la fois direction culture de la ville de Caen, la ville-centre, et de Caen-la-Mer. Avec des enjeux un peu fous, hein, de centralité d'une part, et puis de construction, par ailleurs, d'aménagement du territoire de l'autre. Bon. Et donc, dans notre collectivité, au niveau des élus, il commence à y avoir un vrai travail, hein, depuis le dernier mandat, une vraie appropriation des élus, une vraie présence aussi de ces questions-là, aux différents conseils des maires, etc. Mais pour l'instant, les services sont encore assez peu... On est ça en cours de lancement. Voilà, j'aimerais pas qu'on pense que c'est qu'on n'est pas intégré du tout, mais on n'est pas encore complètement pleinement intégré dedans. Ce que je dirais, c'est que par contre, la directrice de la culture a une intention très forte eu égard des orientations des élus, et donc va missionner au niveau de notre réseau, va en faire un objet transversal. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et j'ai bon espoir qu'une fois que cet objet sera vraiment repéré comme un objet transversal et un objet fort de notre réseau, on sera aussi plus entendu, plus visible et plus mobilisé. Donc je vais vous donner un seul exemple. Nos collègues du service Transition Écologie ont invité Heidi Sevestre, qui est une grande glaciologue, qui a fait un de ses chevals de bataille, c'est d'aller sur les territoires et de parler de la fonte des glaces et de dire c'est loin, c'est dans le Svalbard, mais en fait, ça vous concerne tout de suite. C'est incroyable, elle a fait 4 ou 5 conférences dans la journée. Mais en fait, on n'a pas du tout été associé à sa venue. Et donc, on n'a pas du tout pu le mettre en résonance en fait, auprès de nos publics, etc. Et donc, ça fait partie des choses voilà, qu'on aimerait faire évoluer pour la prochaine venue du prochain grand chercheur, du prochain grand nom.
Je veux bien rebondir là-dessus. C'est le projet de recherche que j'avais avant. Donc, en ce moment, c'est Ecodoc. Celui qu'on avait avant s'appelait Placed. Et dans le cadre de Placed, on a mis en place un outil qui s'appelle un agenda enrichi. Qui existe, hein, qui s'appelle Chronicle, Chronicle. Si vous faites une recherche, vous allez tomber dessus. Et c'est un agenda qui nous permettait de faire le lien entre, par exemple, les événements qui se passent sur un territoire et tout ce que la bibliothèque peut y apporter de ressources. En disant, finalement, la bibliothèque, elle n'a pas à être à la bibliothèque seulement. Elle peut être aussi là où l'événement se fait. Par exemple, si il y a la glaciologue là, qui vient, à la mairie de quartier, rien n'empêcherait que la bibliothèque ait fait une sélection documentaire. Et donc, ce ne sera peut-être pas mettre les bouquins, mais ça peut être via un agenda enrichi où la bibliothèque montre en fait ce qu'elle a à apporter en fait, autour de tous les événements qui sont organisés dans la ville. Bon, je vous laisserai aller voir ça. Nous, on l'utilise pour nos enseignements, par exemple.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous ce matin. Et merci d'être venus si nombreux.
Merci.